Bonsoir et bienvenue dans la tribune de la presse de ce vendredi 12 décembre 2014 avec nos habitués qui sont les journalistes. Pour ce soir dans ce studio, je reçois Giscard Koussema, il est directeur général de Canal Culture Télévision. Giscard, bonsoir.
Bonsoir.
Louis-Dor Balekelaï, il est éditeur du journal Le Pouvoir, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Louis-Dor, bonsoir.
Bonsoir, Berry Frontin, Louchaka.
Georges Kassongo, lui, il est journaliste à la radio Akizabina Damou, une radio qui est née à Kindu, au Mali. Georges, bonsoir.
Bonsoir, Berry, Franklin, Louchaka.
Messieurs, les débats de ce soir tournent autour uniquement de la publication du gouvernement Matata 2, une publication qui est intervenue le dimanche 7 décembre dernier, et ce sujet sera abordé en trois aspects, notamment la composition, les réactions de la classe politique et même la sortie mardi dernier de l'opposition républicaine pilotée par Léon Kengouadondo. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts?
Bien prêt.
Tribune de la presse, c'est parti. Mais avant tout, comment la presse a-t-elle analysé ce sujet? Élément de réponse dans cette revue de presse que nous présente Alain Hiron. Bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'annonce du gouvernement de cohésion et a été faite tardivement dimanche 7 décembre dernier. La prospérité signe Matata 2, des réactions pleuvent. Gouvernement éléphantesque et budgétivore pour certains, élargissement de la majorité présidentielle pour les uns, non-événement pour les autres, les langues se délient. De son côté, la tempête des tropiques relève que dans le nouveau gouvernement, Katanga et Bandundu se taillent la grande part. En même temps, le quotidien Le Phare nous signale que Matata 2 fait des victimes au MLC. Luaka, Kambinga et Gwake excluent le secrétaire général du MLC, parle d'anarchiste. Pour sa part, le journal Le Potentiel lance à la une Matata 2 les raisons d'un maintien. Et toujours à ce sujet, l'éditorialiste de Forum des As trouve qu'il s'agit d'un casting politique. Il y a des signes qui ne trompent pas. D'après le confrère, trois vice-premiers, tous très politiquement connotés, pour sûr, Matata 2 s'annonce sous des auspices politiques. Si le premier ministre incarne à lui seul la caution technocrate du gouvernement, relève le journal, il n'en demeure pas moins que l'on est loin du casting Matata 1. Au seuil de l'ultime ligne droite du quinquennat et de la législature, la politique devrait donc faire un grand retour, conclut Forum des As. C'est ainsi que le quotidien du groupe L'Avenir signe en manchette, après la nomination de l'équipe Matata 2, cap vers la remise et reprise qui a eu lieu hier jeudi. Dans un autre chapitre célébré le 9 décembre de chaque année, la Journée internationale de lutte contre la corruption a aussi fait l'objet de divers articles dans la presse congolaise de cette semaine, notamment du fait de la publication du baromètre mondial de la corruption par l'ONG Transparency International. Dans ce classement, la RDC continue d'occuper le bas du tableau, 154e sur 174 pays. L'Avenir fait aussi mention de la table ronde sur la lutte contre la corruption, laquelle a réuni des acteurs du secteur, des parlementaires, des diplomates en vue d'un échange dans le cadre de cette journée instituée par les Nations Unies et commémorée le 9 décembre de chaque année. Enfin, la référence plus informe que le ministre de la fonction publique à travers l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle OCEP a organisé une matinée de restitution des actes du séminaire atelier d'évaluation des efforts de la RDC en gouvernance et lutte contre la corruption au ministère congolais des Affaires étrangères.
Merci Alain Hirung. Et alors, l'actualité de la semaine, c'était aussi la célébration de la Journée mondiale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, Giscard Koussema, je rappelle que vous êtes directeur général de Canal Futur Télévision. Quel état de lieu vous faites en quelques minutes du respect des droits de l'homme dans notre pays?
Il suffit simplement de voir le tableau dressé par les organisations internationales en cette matière et on verra que la République démocratique du Congo a régressé en matière de respect de droits et libertés et on en veut pour preuve le dernier rapport dressé aussi bien par le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, bref, toutes les organisations internationales qui sont chargées de nous donner les thermomètres internationaux montrent que la République démocratique du Congo a régressé et il n'y a aucun effort et aucune volonté politique de pouvoir essayer un peu de redresser ces tableaux très sombres.
Alors, Louis-Dor Balekelaï, quelles sont les avancées qui peuvent être liées ou qui peuvent être à l'actif de la RDC en matière de lutte pour la défense des droits de l'homme?
Merci bien, éminent confrère. Mais avant
de plancher sur les avancées, permettez-moi de réfuter du revers de la main la présentation beaucoup plus impérialiste de la situation des droits de l'homme de notre pays, faite par mon éminent confrère pour qui j'ai beaucoup de considération, qui table sur les rapports des ONG internationales, quelles qu'elles soient, qui, pour survivre, n'ont besoin que de présenter des rapports négatifs sur la situation des droits de l'homme dans d'autres pays, notamment dans des pays africains, pour avoir des subsides, pour avoir de l'argent et fonctionner. Et donc, je crois que c'est une autre forme de néocolonialisme qui se sert des ONG pour tenir sous la botte les pays africains. Et donc, vous avez vu récemment la marche de la population congolaise dans les rues de Kinshasa pour protester contre le rapport ô combien biaisé de Human Rights Watch en rapport avec l'opération Likofi, parce que j'ai été témoin vivant de l'agression d'une consoeur journaliste d'une radio locale. J'ai été témoin de l'agression par les Kuluna de ma propre tante venue me visiter dans l'une des communes de Kinshasa. J'ai été témoin d'une femme éventrée devant la première porte de la Fikine par ces fameux Kuluna. Et qu'aujourd'hui, une ONG internationale condamne cette opération avec des preuves contradictoires et même contredites par d'autres preuves présentées par le gouvernement, je crois que, avant de tirer la conclusion, nous attendrons le rapport qui viendra du gouvernement tel que souhaité, aussi bien par la communauté internationale que par l'exécutif national. Pour parler des avancées, éminents confrères, quand nous faisons un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire du Congo, 3 décennies durant, personne ne pouvait passer à la télévision ou à la radio pour contester la gestion du pays. Aujourd'hui, les opposants parlent très librement. Nous-mêmes, journalistes, nous n'avions même pas le courage. Tout à l'heure, là, nous allons critiquer de manière objective le gouvernement et son action. Mais aujourd'hui, ça se fait alors que hier, ça ne se faisait pas. Donc, je crois qu'il y a des avancées. Il y a des avancées. Je ne dis pas que c'est suffisant. C'est l'État où les droits de l'homme doivent être respectés comme il se doit, c'est un idéal. Parce que les ONG, citées tout à l'heure, n'ont jamais fait de rapport sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe en Libye, sur ce qui se passe au Mali, sur ce qui se passe dans beaucoup de pays où la montée de l'État islamique aujourd'hui n'a pour bilan que des massacres des hommes, des femmes et des enfants. Et j'en passe le meilleur.
Merci beaucoup, Lidor Balekila. Alors, Georges Kasongo, vous êtes journaliste à Radio Akizabinadamu, à Kindu, au Maniema. Quelle est l'actualité qui a dominé cette semaine chez vous?
Oui, la grande information, Berry, ici au Maniema, même l'information la plus éternelle de Kindu, c'est l'absence de l'eau et de l'électricité dans les lots quotidiens de la population, pendant que Kindu est traversé du sud vers le nord par le majestueux fleuve Congo. Et en dehors de cela, c'est un conflit de limites entre les territoires de Lubuntu au Maniema et les territoires d'Ubundu dans la province orientale qui a obligé le chef de l'exécutif provincial de se déplacer jusqu'à l'extrême nord de la province. Apparemment, il y a des visées expansionnistes de la part de nos amis ou bien de nos compatriotes d'Ubundu qui veulent récupérer quelque chose. Et en dehors de ça, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Vous savez que Radio Akizabinadamu Maniema veut dire tout simplement Radio des droits de l'homme en français.
Bien sûr.
Alors c'était une journée qui a été célébrée avec un cachet spécial par les REPRODOC, Réseau Provincial des Associations des Droits de l'Homme au Maniema, donc Fédération du Maniema. Voilà les grandes informations qui ont, du moins, caractérisé ou bien qui sont à la une ici au Maniema.
Et chez vous, à Maniema, qu'est-ce qu'on a dit finalement de la journée internationale des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a des avancées pour la RDC ou bien il y a toujours régression comme l'a souligné ici Giscard Koussema?
Oui, Berry, pour parler des droits de l'homme, moi-même formé pour en droits de l'homme par l'organisation Union Internationale des Droits de l'Homme, donc par conséquent, je suis activiste. Et il ne suffit pas que Human Rights Watch puisse publier un rapport ou bien Amnesty International. La journée, donc la situation des droits de l'homme au Maniema, s'il faut peindre un tableau, c'est très sombre. Hein. On parle des dénis de justice, des détentions illégales, beaucoup de vices, vraiment, il beaucoup reste à faire. Hein. Peut-être pour notre confrère, Louis Dor, nous savons un peu sur son statut, il pourrait avoir une garde rapprochée à lui. Mais pour les Congolais lambda, vraiment beaucoup est à faire et tout ne doit pas être fait le même jour. Mais au moins, la journée a permis aux activistes d'être face à face avec les autorités judiciaires, de se parler les yeux dans les yeux comme ça. Et nous pensons qu'avec cet élan, donc je signale que l'activité même a eu la facilitation du bureau conjoint aux droits de l'homme des Nations Unies. En tout cas, les activistes d'une part, les autorités judiciaires de l'autre, ils se sont convenus, le moment était là pour dénoncer et recommander même, mais nous pensons que vraiment c'était une belle occasion où les acteurs impliqués dans la justice se sont rencontrés. Mais dire que les droits de l'homme est respecté, non, il y a encore à faire beaucoup, beaucoup, et alors beaucoup reste à faire. Il nous faut marquer des pas, il nous faut aller de l'avant et ne pas croire surtout que les droits de l'homme, c'est un idéal. Non, les droits de l'homme doivent être quelque chose de concret. Hein? Donc, ne pas penser. Parce que nous tous, nous sommes des prisonniers potentiels.
Okay,
nous tous,
beaucoup.
Nous sommes des situations. Si aujourd'hui nous sommes tortionnaires, demain nous pouvons être victimes.
Merci beaucoup. Alors, très très rapidement, avant d'attaquer notre unique thème de la soirée, très rapidement, la semaine c'était aussi la journée internationale de lutte contre la corruption, vous l'avez entendu, Ludor Balekela, la RDC n'est toujours pas bien cotée. Qu'est-ce qui se passe selon vous, en quelques minutes?
Non, là, très objectivement, je dois dire que c'est regrettable si le pays n'avance pas en termes de lutte contre la corruption. Je me rappelle, vous faites allusion à un rapport qui classait la RDC dans une position pas très bonne.
Oui, oui, le rapport de la semaine dernière.
Voilà, en ce qui concerne la corruption dans les industries extractives, qu'on sort dans la passation des marchés, eh bien, je disais tout à l'heure que nous sommes des journalistes libres de nous exprimer comme il se doit, dire les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'on tue un jeune noir aux États-Unis d'Amérique et que le tueur n'est pas condamné, c'est une violation des droits de l'homme. Ça veut dire que ça constitue un idéal pour tout le monde. Mais pour ce qui concerne la corruption en République démocratique du Congo, le vœu que nous pouvons émettre pour le moment, c'est que Tambwe Mwamba, qui est aujourd'hui au commandement du ministère de la Justice, arrête tous ceux qui se livrent à ce genre de sale besogne et qui constitue en fait une sorte d'antivaleur qui handicape l'avancée du pays vers un État meilleur.
Alors, Giscard Koussema, un petit mot sur la journée de lutte contre la corruption.
C'est encore un cliché qui colle à la peau nos politiques. Et il ne suffit pas que les organisations internationales les disent pour qu'on l'affirme. Nous vivons la corruption tous les jours. Lorsque vous suivez les séances plénières, vous voyez comment les députés de la majorité essentiellement s'organisent pour protéger les corrompus et les corrupteurs. Donc ce sont des choses que tout le monde vit et voit ici. Donc il ne suffit pas d'attendre les rapports des organisations internationales. Et donc la corruption, c'est un fléau, c'est parmi les freins qui empêchent ce pays de décoller. Et tant qu'il y aura encore ces régimes de l'impunité, tant que les corrupteurs et les corrompus ne seront jamais punis, et donc nous serons toujours en train de reculer de deux pas pendant que l'on donne l'impression d'avancer d'un pas. Donc nous faisons du surplace ou parfois même nous reculons parce que l'un des fléaux qui gangrène l'État, l'appareil de l'État, reste bien sûr la corruption et les faits sont visibles, nous le vivons tous les jours.
Merci beaucoup et nous voici entrés dans notre premier thème, l'unique thème d'ailleurs de la soirée, voulais-je dire. La nouvelle équipe du gouvernement de cohésion est là, après plus d'une année d'attente. L'annonce du remaniement a été confirmée sur les antennes de la télévision nationale la nuit du dimanche dernier. Augustin Matata Ponyo s'y maintient comme Premier ministre. Il sera secondé de 3 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État et de 32 ministres et enfin de 10 vice-ministres. Et dans la foulée, sont nommés vice-premiers ministres, il y a Évariste Bouchab, le secrétaire général du PPRD, au ministère de l'Intérieur, Thomas Louaka, secrétaire général du MLC de Jean-Pierre Bemba, au ministère des Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Enfin, Willy Makiachi, le secrétaire général du PALU d'Antoine Gizenga, comme vice-premier ministre et ministre de l'Emploi. Onésime Mukandila nous en dit un peu plus.
Au niveau des ministres d'État, 2 grands noms sont à retenir au budget, Michel Bongongo de l'UFC de Léon Kengo, tandis qu'à la décentralisation affaires coutumières, on retrouve Salomo Banamouere. De nombreux entrants et sortants, certains se maintiennent et d'autres sont permutés. Le chef de l'État en a décidé ainsi. Sur la liste d'entrants, on peut citer Mengoy Mukena à la Défense nationale, Alexis Tambwe Mwamba à la Justice, Olivier Kamitatou au Plan, Germain Kambinga à l'Industrie, Matadi Nenga Janou à l'Énergie, Elvis Moutiri au Tourisme, Théophile Bemba Fundou à l'Essure, Omer Pierre Egbaké à l'aménagement du territoire, Eugène Sirofouli au développement rural. Se maintiennent Raymond Chibanda aux affaires étrangères, Louise Munga au portefeuille, Lambert Mende à la communication et médias, Maker Mwangu à l'EPSP, Jean-Claude Kibala à la fonction publique, Ridolin Kasuichi aux ITPR, Martin Kabouéloulou aux mines, Crispin Atama aux hydrocarbures, Félix Kabangenoumbi à la santé publique, Justin Kalumba aux transports et voies des communications. Parmi ceux qui quittent le gouvernement, Daniel Moukoko Samba, Patrice Kitebi, Alexandre Loubatambo, Bavon Sampoutou, Célestin Vounabandi, Jean-Chrysostome Vamuiti, Jean-Paul Nemoyato, Rémi Moussungaï, Robert Mwinga et Charles Nawej Mundele. Sont permutés Trifon Kinkemoulumba aux relations avec le Parlement, Bahati Lukwebo à l'économie. Sachez qu'aucun des anciens vice-ministres n'a été maintenu, à l'exception de Maggie Rouakabouba qui est à l'énergie.
Et je rappelle que parmi les ministres sortants, il y a Richard Mouyège qui avait la charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Giscard Poussema, je rappelle que vous êtes directeur général de Canal Futur Télévision. Comment vous analysez la composition de ce gouvernement?
D'abord, c'est un non-événement parce qu'on a créé un faux suspense pour rien. Il a fallu qu'à contre 14 mois pour assister finalement à quelque chose qui s'apparente à un réaménagement, ou mieux encore un remaniement. La preuve, c'est que aujourd'hui, ces ministres sont entrés en fonction sans qu'ils ne présentent un programme. Donc, on parle d'un nouveau gouvernement lorsque ce gouvernement s'est assigné une mission précise et qui se traduit par
un programme. Mais la mission n'est pas dans le...
Le programme est le même. C'est le même gouvernement qui continue. Ils sont passés dans des bureaux. Ils n'ont pas été à l'Assemblée pour présenter un programme.
Est-ce que ce n'est pas par rapport à ce que le ministre, le président de la République avait dit lors des concertations nationales?
Le président de la République avait produit quoi? L'objectif des concertations nationales était d'élargir la majorité. Et c'est cela qui s'est traduit. Ce n'est qu'une de 800 recommandations, je vous rappelle, issues de ces concertations nationales, des tristes mémoires d'ailleurs, parce qu'on va les démontrer. Donc, aujourd'hui, on a élargi la majorité. Ce n'est qu'un remaniement, un petit réaménagement. On a gardé le même, on a inclus quelques... personne avec un casting très particulier et pour finalement aboutir à ce qu'on appelle abusivement un gouvernement de cohésion nationale qui n'en est pas un. Donc c'est un gouvernement, c'est le même gouvernement qui continue. La preuve, c'est qu'ils sont aujourd'hui dans leur bureau sans présenter un nouveau programme. C'est le même programme qui continue, c'est la continuité, mais on a seulement réaménagé, on a injecté d'autres personnes. Donc ça, c'est la première observation.
Okay.
Oui, l'autre observation, lorsqu'on parle du profil justement de ces animateurs, mais on sent que c'est vraiment le partage attendu entre les responsables de différents partis politique, même si ce casting a échoué à un certain niveau. Si au niveau de l'ancienne majorité, on a pris finalement quelques responsables qui étaient à la touche, mais pour les nouveaux entrants, il y a un problème. Donc cette nouvelle majorité pose déjà problème. La preuve, c'est que ce matin, nous avons tous suivi la réaction d'une des composantes non moins importantes de l'ancienne majorité qui pense que son gâteau a un peu quelque peu rogné par de nouveaux venus. Donc ça, c'est au niveau du profil des animateurs, mais au niveau de l'architecture également. 47 ministres, on a vu qu'on a saucissonné certains départements simplement dans l'objectif de faire plaisir aux nouveaux venus dans cette nouvelle majorité issue de concertations nationales. Et puis par rapport à la dénomination, mais ce gouvernement n'est de cohésion que de nom. La cohésion nationale, ce n'est pas parce qu'on a intitulé tel ministère. Le premier gouvernement a été celui des surdoués. Cela ne signifie pas que ceux qui étaient là étaient des surdoués, non. Donc ce n'est qu'un nom, mais en réalité, ce n'est qu'un élargissement d'une majorité qui aujourd'hui bat le rappel des troupes, qui se consolide et qui s'ajoute de quelques personnes, mais avec d'autres dont on a raté les castings.
En un mot, selon vous, la population, ce gouvernement n'est pas celui qu'attendait la population?
Non. Rien que par la composition, rien que par la mission reste la même. On y a inclus quelques personnes et dont les noms circulaient déjà depuis plus d'une année.
Merci beaucoup, Louis-Dor Balekilaï. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Pouvoir. Est-ce que vous partagez le même avis que Giscard Poussema?
À quelques nuances près, oui. En ce qui concerne le temps que l'on a mis pour avoir ce gouvernement, je dois partager effectivement son point de vue parce qu'à un certain moment, le stress était tel que même quand vous alliez dans des marchés,
Vous trouvez des mamans qui vous posent des questions, mais papa, gouvernement, ou mam colonie. Donc, les élèves, mêmement, les enseignants. Donc, c'était quelque chose qui a bloqué un tout petit peu le pays, dans la mesure où le gouvernement, qui expédiait en quelque sorte les affaires courantes, parce qu'il y avait la lettre du Premier ministre, qui, du point de vue juridique, n'avait jamais été battu en brèche, qui prenait une sorte d'étau les membres du gouvernement. Ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir, beaucoup de marge de manœuvre. L'argent, je dois avouer que l'argent était devenu très dur, très rare en circulation pendant toute la période d'attente du gouvernement. Et donc, ceci a influé sur le social d'une ou autre façon. Je crois que c'est un point de vue partagé par tous les Congolais. Mais qu'à cela ne tienne, nous osons croire qu'il y avait des raisons qui ont présidé justement à ce suspense que nous déplorons, mais qui a été finalement levé parce que on a quand même ce gouvernement dit de cohésion nationale. Alors, en ce qui concerne le programme dont mon éminent confrère a parlé tout à l'heure, ce gouvernement ne peut pas avoir un autre programme que le programme initial de l'autorité morale de la majorité, le programme de la révolution de la modernité, initié par lui, par l'autorité et exécuté par le gouvernement Matata, d'autant plus que Matata est là. Je ne vois pas pourquoi des ministres qui entraient en fonction lors des remises et reprises pouvaient présenter un autre programme. Et l'investiture s'est faite au Parlement. Je crois qu'il faut qu'on attende pour voir si cela ne sera pas fait dans les quelques heures qui viennent pour pouvoir tirer des conclusions. Alors, en ce qui concerne le fait que le gouvernement, selon les propos de mon éminent confrère, que je respecte beaucoup, n'a rien de semblable à la cohésion nationale, je voudrais rappeler que nous sommes dans un contexte d'une démocratie représentative. Et à ce titre, on ne peut pas prétendre avoir tout le monde, ni au Parlement, ni au gouvernement, encore moins dans d'autres institutions. Alors, il y a des voix qui se sont levées, ça et là, pour dire que telle province n'est pas représentée, telle province n'est pas représentée. Je crois que c'est aussi ça le problème des Congolais. C'est comme si on a envie de voir toute la population congolaise, tout le peuple congolais représenté au sein d'un gouvernement. Alors, en ce moment-là, on cesse de fonctionner comme démocratie. On devient ce que le professeur Arthur Zahir Ngoma appelle l'oclocratie, c'est-à-dire un gouvernement où la population décide en lieu et place du gouvernement et les gens se font justice eux-mêmes en lieu et place de la justice ou de la théorie de la séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif voulais-je dire. Oui. Donc ça devient une confusion. Donc il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas avoir tout le monde dans un même gouvernement. Mais s'il y a déjà 1, 2, 3 personnes qui sont là, qui représentent une province, une entité conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est déjà quelque chose.
Mais est-ce que ce n'est pas un gouvernement des partis politiques, comme on a vu avec les vice-premiers ministres, tel que l'architecture l'a présenté? C'est pas un gouvernement des partis politiques.
Mais est-ce que, mon frère, ce n'est pas une pratique démocratique, un gouvernement des partis politiques? On le voit en France, on le voit aux États-Unis. Nous avons vu, par exemple, François Hollande, il est entouré de certains membres de sa plateforme, qui dirigent certains partis politiques de sa plateforme. Nous le voyons aux États-Unis, même si au nom de la politique d'ouverture, les démocrates sont obligés de travailler avec les républicains. C'est de la même manière, nous osons croire qu'au Congo, conformément à certaines résolutions de concertation nationale, nous voyons des opposants qui entrent dans le gouvernement, non pas pour s'opposer, mais pour, n'est-ce pas, aider le pays à aller de l'avant, faire une opposition constructive. Et je me rappelle les propos que me tenait le président Feu Omar Bongo, de très heureuse mémoire, à la cité de l'OEA ici à Kinshasa. Il disait, messieurs les journalistes, on ne fait pas de l'opposition pour l'opposition. On fait de l'opposition pour accéder au pouvoir. Mais s'il y a des gens qui ont juré sur la tombe de leurs ancêtres qu'ils mourront opposants, nous allons les encourager en organisant les funérailles dignes de leur nom.
Merci beaucoup. Alors, Georges Kassongo, vous êtes journaliste à la radio Akiza Binadamu de Kindu. Comment cette nouvelle du gouvernement a-t-elle été accueillie chez vous à Kindu?
Oui, Berry, la nouvelle du nouveau gouvernement a été accueillie vraiment dans la grande sobriété, d'autant plus que la population du Maniema, on n'a pas assisté à des scènes de liesse dans la rue ou quelque part que ce soit. Bon, beaucoup de gens que nous avons interrogés ont justifié leur position, soit disant que les fils de Maniema sont beaucoup plus nationalistes. Ils ne pensent pas trop au Maniema, ils pensent au Congo en général. Et même s'ils accédaient au pouvoir en grand nombre, même en totalité, ils penseront toujours à toute la République démocratique du Congo qu'à Kindu. Alors, cet état des choses leur a poussé de rester calme, chacun chez lui, Et d'ailleurs, on n'a même pas eu l'impression que quelque chose a bougé au Maniema.
Donc, alors, c'est presque d'avis avec ce que Giscard disait ici, que c'était un non-événement.
Pas en des termes propres à Giscard forcément, mais à Kindu, nous pouvons accepter que ce n'était un non-événement, en dehors de quelques réactions qui allaient dans l'un comme dans l'autre sens, parce qu'il y avait des précipitations, soi-disant quoi, certains partis de l'opposition ont fait l'entrée, alors il était temps pour les tenants ou bien les représentants de l'opposition ici en province pour dire à la presse que cela ne nous intéresse pas, ce sont les nouvelles récrits de la majorité qui ont traversé la limite, disons la rivière, ils sont allés porter main forte, ils vont continuer le plan, et aux autres de dire que non, c'est la jalousie parce qu'on ne vous a pas sélectionné. Voilà, c'est juste quelques individus qui se sont échangés dans ce sens. Mais dans le maniement, au sens de la population, vraiment, il n'y avait rien à part quelques 10 ou 15 motos recrutées par un individu proche d'une personnalité qui a fait son entrée au gouvernement, qui ont défilé avec des polos, comme d'habitude, mais vraiment, s'il faut coter, c'était vraiment inaperçu la sortie du nouveau gouvernement.
Merci beaucoup, alors, Edon. Oui, alors je vous disais que les réactions de ce gouvernement n'ont pas tardé dans la classe politique congolaise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce soit du côté de la majorité au pouvoir comme de l'opposition, les violons ne s'accordent pas quant au qualificatif qu'il faut donner à cette nouvelle équipe, ce eu égard aux attentes nées à l'issue des concertations nationales. C'est justement ce que nous explique ici Alain Hiroung dans ce reportage.
Le gouvernement Matata II ne fait pas l'unanimité à l'image de ce que l'on constate dans les états-majors des familles politiques. À la majorité au pouvoir, par exemple, on note la satisfaction chez beaucoup, à l'instar de Didier Molicho, secrétaire général adjoint de la MP. Pour ce cadre, les critères d'un gouvernement de cohésion nationale sont bel et bien réunis dans le gouvernement Matata II.
Le président de la République, quand il a fait son discours à la fin des concertations, il a donné les contours d'un gouvernement de cohésion nationale qui sera composé de ministres de la majorité, de l'opposition et de la société civile. C'est un gouvernement de cohésion nationale.
Henri Thomas Lokondo, député et cadre de la même famille politique, ne semble pas épouser cet avis. Pour lui, la configuration de cette nouvelle équipe gouvernementale ne répond pas à l'esprit des recommandations issues des concertations nationales contenues dans le discours du chef de l'État.
Moi, sincèrement, j'avais pensé que le président de la République allait mettre en place un nouveau gouvernement, et ce conformément à son propre discours prononcé en 2013, avec des missions précises que lui-même avait synthétisées dans ce discours-là. Ça donne l'impression comme si ce gouvernement est un gouvernement un peu intérimaire.
Henri Thomas Lokondo va jusqu'à penser que Matata II est une équipe qui devra laisser la place à une autre. Du côté de l'opposition, Martin Mukonkole, secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, constate tout simplement qu'à travers cette nouvelle équipe, la majorité ne respecte ni la constitution ni les engagements qu'elle prend.
Nous pensons que c'est le même train qui est en train de rouler sur un chemin que nous avions déjà dit que c'est un chemin sans avenir meilleur. Ça nous donne la possibilité de voir comment les amis ne sont pas en mesure de respecter ni la Constitution de la République, ni les différents engagements qu'ils sont en train de prendre.
Toujours dans l'opposition, les groupes parlementaires UDPS, UNC, MLC et leurs alliés qualifient la publication du gouvernement Matata II de non-événement. Le MLC a même radié les trois cadres du parti qui ont accepté d'entrer dans ce gouvernement.
Merci Alain Hiroung. Si vous venez de nous joindre à présent, sachez que nous sommes en face de Louis-Dor Balekela. Il est éditeur du journal Le Pouvoir, Giscard Koussema, directeur général de Canal Future Télévision, et Georges Kasongo, il est journaliste à Radio Akiza Binadamou. Alors Louis-Dor Balekela, vous venez de suivre la confusion qui règne, si je peux utiliser ce terme, dans la classe politique congolaise. Qu'en pensez-vous?
Non, je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut effectivement que les gens réagissent, que les gens s'expriment. C'est ça aussi la démocratie. Et il n'y a jamais eu, dans toutes les civilisations, à toutes les époques, aucun gouvernement qui fasse l'unanimité. Lisons l'histoire des sciences politiques. Aucun gouvernement n'a jamais fait l'unanimité. Même en France. La France qui nous inspire en termes d'architecture institutionnelle dans ce pays,
Même le président français lui-même a été contesté par ses propres ministres qui ont démissionné. Ça n'a jamais fait l'unanimité. C'est ça aussi la politique. C'est comme ça le fonctionnement des institutions. Et je disais tout à l'heure qu'il est inconcevable qu'on ait un gouvernement où l'on retrouverait 70 millions de Congolais qui représentent à peu près la population de notre pays.
Mais quand même, c'est inconcevable. Il fallait quand même qu'il puisse y avoir un certain consensus sur le terme à utiliser du gouvernement. On parle de cohésion nationale alors que dans la famille présidentielle, dans la famille de la majorité présidentielle, on ne s'accorde pas sur ce concept-là. Comment vous expliquez cela?
Je crois que nous ne pouvons pas perdre de vue l'histoire de ce pays, l'histoire politique de ce pays. Le terme consensus n'existe que comme concept, mais dans la réalité, regardez la conférence nationale souveraine, combien d'années nous avons mis là-bas, nos aînés et consorts ont mis là-bas pour pouvoir ne rien récolter à la fin. Donc le terme consensus ne peut pas s'appliquer dans ce contexte parce que les Congolais se sont toujours entendus de ne jamais s'entendre lorsqu'il s'agit des intérêts supérieurs de la nation. Et donc, à un certain moment, il fallait quand même prendre des décisions visiblement impopulaires, mais qui s'imposent. Ça veut dire que même si on consultait tous ces chefs des partis politiques pour désigner les gens, les autres proposeraient leurs propres femmes, leurs beaux-fils, leurs enfants et consorts, et ça poserait énormément de problèmes. À un certain moment, je crois que le président était aussi devant un fait accompli et il devait s'assumer. On attendait le gouvernement et là, ceux qui ne se sont pas retrouvés, il n'y a pas qu'au gouvernement qu'on peut servir le pays. Et regardez tout ce qui s'agite, y compris même l'opposition. Est-ce que vous pensez, très logiquement, éminent confrère, que nos amis, nos compagnons de l'opposition ont un droit de condamner le gouvernement auquel ils n'appartiennent pas?
Mais dans
et
la famille politique,
la majorité
même,
s'embourber avec son gouvernement et tirer les conséquences à la fin de la mandature.
Justement, vous parlez de s'embourber dans la famille politique. Il y a même l'AFDC de Bahati Lukwebo qui se plaint du fait qu'il n'a pas pu avoir, il n'a pas pu accéder à ces postes ministériels qui lui ont été promis.
C'est un droit pour l'UFC de réclamer. Ça, je ne peux pas condamner, mais en tant que membre de l'AMP, est-ce qu'il n'y a pas des canons d'expression démocratique tracés par la charte de l'AMP? Voilà, ce sont des erreurs politiques qu'il faut éviter un tout petit peu. J'ai dit, je reconnais à l'AFDC de Modeste Bati qu'il y a beaucoup de députés qui auraient pu mériter mieux. Mais est-ce que la réclamation doit se faire dans la rue? C'est ça le gros point d'interrogation qui ne convient pas dans ce studio.
Alors, Giscard Kousséma, il n'y a pas que la confusion dans la famille, dans la majorité présidentielle et même dans l'opposition, il y a aussi des confusions.
Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait une confusion au niveau de l'opposition, d'autant plus que l'opposition n'attendait rien de ce gouvernement, même pas une participation. La confusion qui s'apparente à une opposition, c'est qu'il y a des individus qui s'approprient ces concepts, qui s'approprient les statuts d'opposants pour faire leur entrée, pour justifier leur présence au gouvernement. Et heureusement, le bal des chauves n'aura pas duré longtemps, et un jour à peine, et aujourd'hui, on sent que ces personnes n'ont rien à voir avec l'opposition en réalité.
Et vous voulez dire que Omer Egbake, Thomas Luwaka et même Germain Kambinga ne sont pas des opposants?
Mais leur propre parti politique ne leur reconnaît pas ces statuts, ils sont chassés. S'ils étaient opposants, ils ne seraient pas chassés. Ça n'a même pas fait 24 heures que toutes ces personnes citées ont été chassées. Donc, on ne peut pas leur accorder ces statuts d'opposants. En plus, on ne s'autoproclame pas opposant. Il faudrait qu'on mette un terme à cette confusion sémantique. Le statut d'opposition est déterminé par la loi portant statut de l'opposition. C'est la loi qui définit qui est opposant, qui ne l'est pas. Et selon la loi qui est encore en vigueur, la loi de 2008, est opposant tout groupement politique qui ne participe pas à la gestion du pays, à l'exécutif, mais qui participe par son contrepoids en dehors. Et donc, si on s'en tient à ces définitions-là, donc toutes ces personnes qui s'arrogent ces statuts n'ont même pas, en dehors du fait qu'ils ont même été chassés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, au niveau de la frange qu'on appelle aujourd'hui l'opposition républicaine. Écoutez, souvent nous avons l'habitude ici de nous confiner derrière les concepts pour justifier certaines choses. J'insiste, ce n'est pas parce que un gouvernement s'appelle gouvernement de cohésion nationale, ce n'est qu'un nom d'ailleurs, que ce gouvernement est réellement un gouvernement de cohésion nationale, tout comme parce que quelqu'un s'autoproclame opposant. Le sport, c'est un statut qui se vit par le travail. Donc, à partir du moment où on est là, parce qu'on assume le programme, il n'y a pas deux programmes, c'est un même programme du gouvernement qui va être défendu. Donc, d'abord, le mauvais casting s'est fait au niveau du nombre de ces personnes. Ce sont ces personnes qui seront absorbées par la spirale du silence, comme l'ont été les Lambert Mende, les Trifon Kinkei Moulumba, tous sont arrivés avec ces statuts et par la suite on a vu ce qu'ils sont devenus. Donc aujourd'hui il est clair à ce niveau-là qu'il n'y a pas de confusion. Aujourd'hui l'opposition est connue, le bal de chauve a donné ses secrets, ce sont des personnes qui sont en dehors des institutions et ceux qui sont dedans ne sont pas opposant.
Georges Kasongo, quelle est votre position par rapport aux entrées dans ce gouvernement de Thomas Louaka, Evariste Bouchab et Willy Makiachi? Allô Georges, vous êtes avec nous? Oui, en attendant qu'on puisse retrouver Georges Kasongo.
Oui, je voulais placer un mot, éminent confrère, Berry, pour dire que la radiation des trois membres, des trois cadres du MLC, à la suite de leur entrée dans le gouvernement, constitue une erreur politique monumentale pour le MLC. Et là, le MLC est sur les traces de l'UDPS, qui, à force de radier et de chasser,
Va se vider,
va se retrouver comme une sorte de coquille vide. François Mamba est parti, Olivier Kamitatu est parti, Lérémy Moussounga ils sont partis, aujourd'hui Thomas Louaka et Germain Kambinga et Omar et Omer Nguake qui ont participé aux concertations nationales, qui ont compris que pour l'intérêt supérieur de la nation,
ils ont participé sur l'ordre de Jean-Pierre Bemba, le président.
Voilà, sur l'ordre de Jean-Pierre Bemba. Mais à un certain moment, ils se sont rétractés pour dire nous ne participons pas au gouvernement, mais la politique étant dynamique, ça c'est un problème de conviction. Ou on aime le pays, ou on l'aime pas. Je doute fort qu'un seul instant, Thomas Louaka ait renié ses convictions d'opposant. Mais il a accepté d'entrer dans le gouvernement. C'est, en y entrant d'ailleurs, j'ai toujours conseillé aux opposants, en entrant dans le système, on va voir où est-ce qu'il y a des pièges et comment contourner ces pièges pour qu'une fois, s'il y a alternance, qu'on sache se tirer d'affaire. Mais quand on reste en dehors du système, on ne peut pas maîtriser comment le système fonctionne. Donc, moi, je crois que le MLC a tout intérêt d'encourager ces hauts cadres qui sont entrés dans le gouvernement. L'autorité morale du MLC est en prison à la haie depuis des années. C'est quand ces cadres sont dans le gouvernement qui peuvent influer aussi pour obtenir du gouvernement un appui en ce qui concerne l'avancée ou l'aboutissement du procès des affaires de l'autre côté, même si on sait que c'est un problème judiciaire, mais il y a aussi des aspects politiques qui peuvent influer sur donc le traitement de ce dossier. C'est très très important qu'on ne commette pas cette erreur de l'UDPS.
La réalisation me signale que Georges Kasongo est de retour sur les antennes. Georges, je vais vous poser la question de savoir quelle est votre position, comment votre rédaction a-t-elle commenté le fait que Thomas Louaka, Evariste Bouchab et Willy Makiachi fassent leur entrée dans ce gouvernement?
Oui, à mon point de vue, il a été d'abord constaté que c'était une confiance renouvelée du chef envers son surdoué de la majorité, en la personne de Matata Ponyo Mapon. Mais l'arrivée massive des chefs des partis au sein du gouvernement présage qu'on a changé le fusil d'épaule, c'est-à-dire le nouvel exécutif a une nouvelle mission. C'est ce que l'on a compris par temps de cette structure du gouvernement. Mais quelle est la crainte la plus légitime qui plane dans l'opinion publique? C'est celle de voir des termes tels que maîtrise des agrégats macroéconomiques, la croissance à deux chiffres, la troïka stratégique être remplacée par des termes comme stratégie, des histoires comme référendum, le report des élections, négociations politiques, deal politique. Nous risquons de revenir sur les termes de la Deuxième République avec leur cohorte de conséquences. Voilà au moins ce qui a été considéré au moins comme une certaine crainte. Parce que Matata 1 a été qualifié de technocratie et ça a été prouvé. L'inflation a été maîtrisée, beaucoup de choses. Le Congo, qui était deuxième pays le plus corrompu du monde, est arrivé jusqu'à être 20e en commençant par les banques. C'est qu'on a évolué quelque part. Mais ce gouvernement qui vient avec les chefs des partis politiques, quelle est leur mission? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des personnalités connues de tout le monde, nous les savons tous les temps, chacun avec son histoire qui lui colle à la peau. Alors on se pose encore la question que nous devons voir, faisons le crédit du doute voyons ce qu'il va faire, mais au moins l'arrivée massive des chefs des partis politiques au gouvernement, nous disons adieu la technocratie. Et c'est peut-être les retours au vieux démon.
Henri Thomas Lokondo disait dans le reportage tout à l'heure qu'il, pour lui, c'était, il avait comme l'impression que c'était un gouvernement intérimaire. Quel est votre sentiment par rapport à son point de vue?
Tout ce que nous disons, ce gouvernement n'est pas intérimaire. C'est un gouvernement qui prépare une mission. Moi, je préférerais dire que c'est un gouvernement de combat. Parce que quelque chose se présage, hein, se profile à l'horizon. Alors, il fallait prendre les grands gabarits, les gros calibres, les placer sur le terrain, alors pour parer à toute éventualité. Voilà, au moins, on pouvait penser avec cette arrivée massive des poids lourds.
Ok, merci beaucoup. Alors, oui, bon, ok, d'accord, en quelques secondes en tout cas.
Je voudrais m'interdire de suivre mon confrère Georges sur ce chemin du prophétisme, n'est-ce pas, qui le pousse à dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut être vrai, mais d'autant plus que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc la science nous interdit de faire du prophétisme sur les faits. Mais je voudrais dire quelque chose de très intéressant, c'est que il faut éviter de confondre les technocrates et les politiques. C'est comme si les deux étaient aux antipodes. Non, un politique peut être également un technocrate. Parmi les membres de ce gouvernement ici, nous avons des professeurs d'université qui peuvent allier la technocratie et la science, qui ne sont pas deux éléments distincts ou qu'on peut mettre en opposition. Et donc, on ne peut pas lier la réussite d'un gouvernement au fait d'être technocrate ou d'être politique. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un programme. Aucun de ces chefs de parti ne viendra avec son programme dans ce gouvernement. C'est un programme qui est déjà tracé et ils ne sont là que pour exécuter sous la coordination du Premier ministre et chef du gouvernement.
Merci. Giscard, en quelques minutes.
Oui, moi, je voudrais partager les propos de Georges Kassongo pour être beaucoup plus clair dans les faits, pour dire que effectivement, on peut prêter beaucoup d'attention à ces gouvernements faits des politiques. N'oublions pas que c'est un gouvernement issu des concertations nationales.
National, oui.
Et l'une des recommandations, la première recommandation des concertations nationales était la non-révision de la Constitution, qui constitue aujourd'hui un non-événement dans la mesure où les contextes internationaux, particulièrement africain, a montré qu'il y avait un danger pour nos gouvernants de foncer sur cette voie-là. Alors, qu'est-ce que ces concertateurs ont fait? Ils sont allés puiser dans une autre recommandation qui, en fait, nous fait un glissement vers un prolongement de mandat des faits. Je m'explique. L'une des recommandations des concertations nationales était, entre autres, de conditionner l'organisation de l'élection de 2016 par un recensement. Et aujourd'hui, voilà, tirant profit de cette recommandation, le président de la République a créé l'ONIP.
L'ONIP, oui.
Et l'ONIP qui est censé organiser ces élections. Et tout le monde a compris, finalement, que c'est aujourd'hui la charge de prolonger le mandat viendra de cette ONIP, à commencer par les animateurs et même de cette organisation qui ont dit qu'il fallait 4 à 5 ans pour organiser des élections. Donc aujourd'hui, nous pensons que la mission politique accordée à ces gouvernements des vertébrés, c'est entre autres de contourner la révision constitutionnelle et pouvoir obtenir la prolongation, le prolongement du mandat du chef de l'État à travers le retardement de l'organisation des élections. Et c'est là où, justement, le bal des chauves a encore livré ses secrets pour dire aujourd'hui, ceux qui s'arrogent ces statuts d'opposants, c'est en fait des personnes dont la mission politique est celle de pouvoir obtenir le prolongement de mandat du chef de l'État en allant retarder les élections à travers l'ONIP, et ça se voit à travers le statut de personnalité et leur poids politique par rapport à leur parti.
Merci beaucoup. Alors, un dernier aspect, c'est par là que nous allons conclure notre magazine de ce soir. Le dernier aspect, Giscard Koussema, vous allez conclure directement. Comment entrevoyez-vous l'avenir de ce gouvernement?
Je vais être bref en disant qu'aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître les statuts de l'opposition à l'opposition républicaine.
Merci Ludor Balekelaï, nous arrivons pratiquement à la fin.
Je voudrais dire tout simplement, informer, l'avenir de ce gouvernement, c'est que c'est vrai, il y aura beaucoup de problèmes avec tous ces mobutistes qui sont entrés, qui vont de l'une ou l'autre façon bloquer la machine, mais il appartient au Premier ministre, avec le soutien du chef de l'État, de tout faire pour que le peuple congolais se retrouve et que tous ces ventriotes ne viennent pas s'enrichir pour que demain, ils prennent le pistolet pour se retourner contre celui qui leur a donné le pouvoir.
Georges Kassong, on va finir avec vous, un dernier mot par rapport à l'avenir de ce gouvernement.
C'est justement d'amener, d'exécuter les projets du président Joseph Kabila. Alors nous avons également peur parce que des personnes sont bien connues, ce ne sont pas des ministres inconnus, des personnes bien connues avec leurs vieilles habitudes. Nous avons peur que Matata se trouve un peu ceinturé et sans beaucoup de moyens parce qu'il est devant les chefs de parti.
Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette tribune de la presse qui prend fin sur cette note. Retrouvez-la sur le site internet www.radiokapi.net. Merci à Mimi Kindou qui était à la prise de son, Alain Irung à la coordination, Berry Franklin Luchaka qui était à la présentation vous dit merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous du débat politique c'est déjà lundi prochain à partir de 19h15, heure de Kinshasa. Votre oreille devient meilleure à l'écoute de la fréquence de la paix.